Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Chaque semaine, nous aborderons des différents sujets à l'aide d'expériences personnelles, d'analyses psychologiques et émotionnelles pour proposer des outils et des pistes de solutions. Aujourd'hui, il sera question du vrai visage de l'itinérance féminine. Et pour nous en parler, Anne-Gaëlle Whiteman, coordonnatrice à la Rue des Femmes, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes itinérantes. Mais tout d'abord, je reçois Agnès Reynaud, thérapeute en relation d'aide, intervenante dans les dépendances et qui a vécu des épisodes d'itinérance.
La rivière, à force jambé roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla. Montez la rivière, à force jambé roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla.
Montez la rivière.
Ouvrez oreilles, faut qu'apprendre coûter bruit de l'eau, et qu'il toujours montré où là pour continuer. Continuer, péqué jamais soif, plus que monter bruit de l'eau, qu'elle fouet, plus ou qu'elle est bouée, plus ou qu'elle est montée,
monter la rivière.
À force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla.
Montez la rivière.
Ouvrez oreilles. Toujours garder couler de l'eau, en misio qu'à monter, qu'à venir plus clair. Plus clair. Ou fait le bagarre. À force si clair, tellement qu'à briller, c'est dit sans lumière, qui a guidé au monté, de la rivière l'amour. La rivière la vie, oui.
Montez la rivière.
La rivière la vie, doudou.
Montez la rivière.
À force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla.
Montez la rivière.
À force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla.
Montez la rivière.
À force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla. Et à force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla. Et à force jambé, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla.
Montez la rivière.
Nous avons écouté Cali, Montez la rivière. Bonjour Agnès.
Bonjour Marthe.
Tu as été, en fait tu es intervenante dans les dépendances parce que toi tu as été dépendante.
Oui, tout à fait.
Alors, tu as eu une période d'itinérance, mais c'était pas à Montréal, c'était en Martinique.
C'est ça, je vivais dans les Antilles. Quand je consommais, quand j'ai commencé à consommer, moi j'ai commencé à 13 ans à consommer là-bas. Donc j'ai passé quasiment 21 ans, j'ai consommé pendant 21 ans. Et les 7 dernières années, j'ai consommé du crack. Donc, je suis vraiment tombée dans le crack avec tout ce qui amène comme violence par rapport à cette substance. Et évidemment, je me suis retrouvée, comme beaucoup de personnes qui étaient à consommer avec moi, à vivre dans la rue à cause de cette consommation excessive, effectivement.
Et pendant combien d'années tu as vécu dans la rue?
Bah, ça a été progressif, mais on va dire que vraiment, il y a eu des périodes. Après, je suis retournée dans la famille, on m'a accueillie, puis après, je suis retournée dans la rue. Ça a été vraiment comme ça, mais je peux dire que les trois dernières années, là, ça a été du 100% dans la rue, là, avec peu de retours, des retours, mais bref, dans la famille, parce que j'avais des enfants, tu sais, fait que je revenais.
Oui, tu avais deux enfants.
Oui, j'avais deux enfants à l'époque.
En bas âge?
Oui, oui. Quand j'ai arrêté, quand je suis partie, j'ai quitté à Martinique en 96, ma fille avait 12 ans, puis mon fils avait 9 ans.
Mais quand tu étais dans la rue, quel âge ils avaient?
Ben, ils avaient à peu près une dizaine d'années.
OK.
Ouais, ma fille avait à peu près 10 ans, 9 ans.
Ils habitaient où?
Ben, ils étaient chez mes parents. Mes parents, en fait, se sont occupés de mes enfants pendant 10 ans.
D'accord.
Parce que j'étais très instable, je consommais. Donc, je pouvais disparaître pendant des mois sans donner de nouvelles. Alors,
des mois?
Oui, oui. Je partais et puis je revenais pas pendant 3-4 mois.
Et comment on vit dans la rue? Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent des hommes?
Ben, je pense que déjà, il y a une espèce de vulnérabilité qui nous habite en permanence, qui nous amène à vivre constamment dans la peur. Je pense qu'on a beaucoup plus peur. Il faut se défendre. Il faut qu'on défende notre peau, quoi.
Oui.
Parce qu'on est amené à vivre des violences, des abus psychiques, psychologiques, puis des abus physiques aussi, sexuels, tout ça. Fait que c'est plus difficile pour une femme de se retrouver dans la rue. Et puis, il y a cette espèce de vulnérabilité qui fait que, bon, on peut vite sombrer, être avec des personnes qui vont profiter de cette vulnérabilité.
Oui. Hein,
par la peur ou...
Donc, les hommes vivraient moins de violence physique?
Bah, je dis... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est plus facile de se retrouver pour nous, être aux prises avec un homme qui va nous contrôler,
oui.
qui va peut-être nous faire de la prostitution. Mais je suis pas en train de dire que les hommes vivent pas de la violence. Ils ont de la violence entre eux. Mais souvent c'est pour la drogue ou de l'argent ou c'est ça. Mais nous, c'est plus comme faut qu'on défende notre peau, quoi.
Oui. Et sexuellement, ça doit être très difficile pour une femme.
Effectivement. Moi, personnellement, j'ai subi de la violence à tous les niveaux, physique comme verbal, et puis des abus sexuels aussi.
Oui.
Donc ça détruit quelqu'un.
Oui.
Après, il faut reconstruire, quoi.
Oui, mais quand on est dans la rue, on est quand même conscient qu'on est abusé, qu'on est violé, qu'on est battu.
Oui.
Et comment on fait pour continuer, en fait, au quotidien? C'est la drogue qui nous endort?
En fait, c'est un cercle vicieux. Hein. C'est sûr que moi, j'ai consommé pour fonctionner, puis j'ai fonctionné pour consommer. Fait que on est dans un cercle vicieux. J'appelle ça un package deal. Hein.
Oui.
Tu consommes, tu as tout le reste qui va avec, quoi. Faut pas s'attendre à ce qu'on soit avec un environnement sain. C'est un environnement qui est très toxique, donc qui amène. On n'est pas avec des anges.
Hein, non.
On devient des démons nous-mêmes. Alors parce qu'on a besoin de prendre notre substance, alors on va accepter l'inacceptable.
Oui, je comprends. Et est-ce qu'il y avait quelque chose qui te faisait croire que tu allais te retrouver là un jour ou
Non.
Non, pas du tout.
Non, j'avais le désir de ne pas finir comme celle que je rencontrais, qui avait 15-20 ans de plus que moi, que leurs enfants étaient placés dans des familles d'accueil et puis qu'elles, elles étaient encore dans la rue. Alors, je consommais avec ces personnes-là et à l'intérieur de moi, je me disais, mais je veux pas être comme ça dans 15 ans, quoi. Il faut qu'il y ait quoi? Quelque chose qui arrive, oui. Qui a un déclic pour que je me retrouve ailleurs. Puis, mais avec l'environnement, la dope, t'oublies vite ce genre de oui. pensée. Ouais.
Et qu'est-ce qui a été justement, vous parlez du déclic, qu'est-ce qui a été le déclic?
Ben, en fait... En fait, moi, j'ai touché plusieurs bas-fonds. À chaque fois, je croyais que c'était mon dernier bas-fond. Puis comme c'est une maladie qui est progressive, hein, la dépendance, donc c'est sûr que ça m'a amené à vraiment toucher hein, de vrais bas-fonds, quoi. Mais je me suis retrouvée à l'hôpital. Je faisais, à l'époque, j'avais 33 ans, je faisais... 40 kilos, ce qui fait à peu près 80 livres. Je portais les vêtements de ma fille qui, à l'époque, allait sur ses 12 ans. Donc, c'était quand même, j'étais comme...
Ça chutait vite.
Ça chutait vite, quoi. Et puis, le médecin me donnait 2 mois à vivre si je continuais à consommer. J'ai vu mon père pleurer dans mes bras à ce moment-là. Alors, tout ça, plus comment dire, des discussions avec lui et puis des essais de il essayait de me faire prendre conscience que j'étais mère de 2 enfants puis que je tu sais je pouvais pas continuer comme ça, fait que tout ça ensemble fait qu'à un moment donné là je suis partie de la Martinique. Il fallait que je parte. Je pouvais pas me rétablir là-bas.
Non, parce qu'il y a trop de drogue là-bas.
Ben, à l'époque, il n'y avait pas de thérapie ou très peu. Il n'y avait pas d'aide. La notion de la maladie n'était pas encore vraiment... comme aujourd'hui, ça va un peu mieux. Là, ça a un peu débloqué de ce côté-là. Mais ici, on a beaucoup de chance hein, d'avoir autant d'aide. Donc, je suis venue en 96 pour 3 mois. Puis ça fait... ça va faire 25 ans le 28 février que je suis arrivée à Montréal, quoi, que je suis restée.
Ah, c'est génial. Et les enfants sont arrivés aussi avec vous, hein?
Oui, c'est ça. Ben, je les ai fait venir par la suite. Ça m'a pris 3 ans.
3 ans.
3 ans de reconstruction, petit à petit, une journée à la fois. C'est ça, ça a été tout une transformation. Puis ça a été un parcours atypique aussi parce que... Il y a le choc culturel. Moi, ma famille était ailleurs. J'étais seule ici. Alors, il fallait que je me rebâtisse. Et puis, bon, ça a pris 3 ans pour que je puisse les faire venir. Entre-temps, je me suis mariée avec quelqu'un qui avait un parcours un peu comme le mien. Donc, on s'est rétablis ensemble. Et puis...
On va en parler de ce rétablissement-là après la pause.
Parfait.
Donc, tu restes avec nous, Agnès.
Merci.
No woman a cry. No woman a cry. No woman a cry. No woman a cry. Cause I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown, observing the hypocrites, yeah, mingle with the good people we meet, yeah, good friends we have, oh, good friends we have lost along the way, yeah, in this great future, you can't forget your past, so dry your tears, I say, yeah, no. I remember.
government yard in Trench Town. Yeah, and then Georgie would make the firelights. I say, like a wood burning through the night. Yeah, then we would cook cornmeal porridge. I say, of which I'll share with you. Push on through, but while I'm gone,
everything's gonna be alright. 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 Everything's gonna be alright.
So no woman, no cry.
No Woman, No Cry de Bob Marley. Vous écoutez toujours Terre de Femmes à Canal M, ici Marthe Saint-Laurent. Nous sommes en compagnie d'Agnès Renaud. Bonjour Agnès. Bon retour, bon retour de la pause. On a l'impression qu'on recommence, ouais. qu'on recommence, mais au fond, on continue. Nous sommes rendus à Montréal. Donc, en désintoxication, c'est votre père qui vous envoyait à Montréal et vous avez, pendant 3 mois, vous avez été en maison de désintoxication. Mm-hmm. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, moi, je suis arrivée avec une pulsion de mort, avec la rage de mourir et puis petit à petit que j'arrêtais de consommer, que je mangeais bien, que je dormais bien, que j'étais pris en charge par des professionnels des dépendances, tout ça. Et bien, au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à aller mieux, à me sentir mieux, à reprendre connexion un peu avec la réalité et puis à me reconnecter à moi-même, surtout, hein, à réapprendre qui je suis, c'est quoi ma couleur préférée, c'est quoi oui. mes rêves, reconnecter avec mes rêves d'enfant, et puis aussi à reconnecter avec la mère en moi, quoi, oui. la mère, mm-hmm. la femme, tout ça, fait que petit à petit, je me suis rétablie, j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'un lourd passé comme le mien, fait qu'on on a commencé à se rétablir ensemble. Donc ça a été mon compagnon de sobriété et puis on s'est mariés.
Ah oui,
on s'est mariés pour que je puisse aussi en même temps pouvoir faire mes papiers d'ici, que j'ai pas à partir les faire ailleurs.
Mais il y avait pas de danger, il y avait pas de danger d'être avec quelqu'un qui avait été aussi dépendant.
Oh ben oui, c'était pas très recommandé à l'époque, je le sais, puis on le dit, hein, 85% des rechutes sont dues aux relations affectives, alors c'est sûr qu'on a pris des risques, hein, de toxicomanes en rétablissement, c'est rock'n'roll.
Oui.
Alors, mais je pense qu'on a été vraiment protégés, quelque chose de plus fort que nous, là, on nous a vraiment... on a senti qu'on, t'sais, qu'on était protégés, là. Mm-hmm. C'est sûr que ça n'a pas été... très facile, mais moi j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui avait l'esprit ouvert suffisamment grand pour aller faire des thérapies de couple, pour continuer à faire son mode de vie avec moi, de vraiment de communiquer aussi, une grande communication de couple entre nous, on est capable de faire ça après la tempête.
Oui, d'accord.
Alors ça explose et après on s'assoit, on parle, Et puis, on avance ensemble et on fait ça depuis... ben là, on a fêté nos, nos 22 ans, 23 ans, je ne sais même plus, on s'est mariés en 97. Wow. C'est ça, fait que...
Et puis, vous avez un enfant aussi.
On a eu un enfant qu'on on l'appelle notre bébé de sobriété, qui a aujourd'hui 20 ans.
20 ans.
Donc, qui ne nous a pas connus dans la consommation. Mmh. Et j'ai récupéré mes enfants au bout de 3 ans, qui eux-mêmes m'ont donné des petits-enfants. Mmh. Puis aujourd'hui, je suis grand-maman de 4 petits-enfants merveilleux. Et la famille s'est réunie et tout le monde va bien et les blessures se referment tranquillement. Oui. Puis,
comment les enfants, en fait, les enfants, ça pardonne tout, quoi?
Oui. 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 Mmh. C'est plus difficile pour moi de me pardonner.
Ah bon?
Oui. Ça a été tout un processus. Des moments, j'ai encore des écarts où je vais toucher à de la culpabilité.
Oui.
Mais... là, maintenant, ça va mieux. C'est vraiment, je me pardonne de plus en plus. Je peux pas changer le passé. Et puis même si j'avais la possibilité de le faire, je le ferais même pas parce que c'est grâce à ce passé que je suis la femme, que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Donc, ça m'a quand même...
Oui, puis ça a ouvert un nouveau métier.
Oui, ça a ouvert un nouveau métier qui est devenu une vocation. Donc, je suis retournée aux études en 2014. J'avais 52 ans. Donc, je me suis assise sur les bancs.
C'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant.
Je me suis assise sur les bancs de l'Université de Sherbrooke pour passer un certificat en toxicomanie. Et puis, quand j'ai terminé ce certificat, je suis allée faire une formation pour devenir thérapeute en relation d'aide par la NDC. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai mon bureau privé et puis je travaille en intervention dans une maison de thérapie.
Et comment vous intervenez? Est-ce que vous êtes très stricte ou au contraire stricte parce que vous connaissez tous les rouages, la manipulation qui est derrière la consommation? Mm-hmm. Ou si vous êtes dans l'empathie parce que vous avez passé par là?
Ben en fait, d'abord, premièrement, on ne me la fait pas à moi. Je suis assez, assez vive d'esprit et puis moi, j'ai un manipulateur. Comme je le dis, un diplôme en manipulation, puis une maîtrise en, c'est une maîtrise en mensonge et tout. Je suis passée par là, je suis allée à l'école de la vie, puis j'ai gagné des Oscars aussi dans la rue. Fait que moi, on me la fait pas. T'sais. C'est sûr que je vois tout de suite arriver le manipulateur en face de moi. Ça va dépendre des cas de figure, des situations. Oui, je peux être exigeante, je peux être stricte parce que je prends la maladie très au sérieux et que c'est une maladie mortelle, progressive et mortelle. Et j'ai perdu beaucoup d'amis dans des rechutes. Donc, j'estime que quand ton nom est tiré du chapeau, faut pas en abuser. Puis, je peux être dure. Ouais. Je peux être dure avec l'autre en face quand il me joue des games, là, comme on peut dire dans notre jargon. Mais je peux aussi être très, très empathique parce que je suis passée par là et je sais comment c'est difficile de sortir de ça.
Ouais.
Donc, on va vraiment dans les deux. Puis dans la même rencontre, la même intervention, je peux passer d'un bord à l'autre. Hein, c'est pas... Ouais.
C'est vrai que d'être dans la rue, ça, on devient un peu comme une lionne ou comme donc ça fait naître de l'agressivité. Puis tantôt vous avez parlé, j'avais envie de mourir en fait, je voulais mourir. Mm-hmm. Donc cette agressivité là, qu'est-ce que vous avez fait avec aujourd'hui?
Bah en fait c'est une énergie qui m'habitait, qui m'envahissait et fallait que j'en fasse quelque chose. Alors, comme j'ai eu toute l'énergie pour me détruire, toute cette colère après qui montait, j'en ai fait une alliée. Ça m'a aidée à me reconstruire. Fait que c'était des défis. J'avais des difficultés, mais tu sais, toute cette boule d'énergie qui m'envahissait, mon agressivité... m'emmenait à vraiment foncer droit devant. Puis je me disais, on verra, on va faire ça, on va essayer ça. Fait que j'ai osé. Mm-hmm. Moi, ça m'a ouvert justement cette voie de oser.
Oui.
C'est oser ma vie, oser. C'est oser le faire. On me donnait vraiment aucune chance quand je suis arrivée. J'ai été quelqu'un de très difficile à aider. Je voulais pas qu'on m'aide.
Pour quelle raison?
Bah parce que j'avais juste le goût de mourir et okay. j'avais juste la rage de j'avais une rage en moi qui me tous ces abus que j'ai subis dans la rue faisaient que j'étais juste une colère sur deux pattes quoi. Mm-hmm. Alors ça a été très très dur d'accepter l'aide des autres et j'étais dans un personnage aussi oui. beaucoup j'ai beaucoup alimenté le personnage de la rough and tough.
Oui.
Parce qu'il fallait que je me défende dans la rue, fait qu'après, ben, partout, je voyais le prédateur en face de moi, fait que j'étais tout le temps dans des défensives.
Oui,
mais à un moment donné, je m'en suis servie dans le bon sens, là, puis je suis tellement contente. Là.
Et Agnès, qu'est-ce que l'itinérance vous a appris?
Ben, moi, ce qu'elle m'a appris, c'est de me contenter de peu. Tu sais, de ne pas m'attacher aux choses matérielles, de parce qu'à tout moment, à n'importe quel moment, ça peut basculer. La vie est ainsi faite, c'est un fil fragile. Donc, de me contenter de ce que j'ai, de compter mes bénédictions. Ce matin, j'ai pris, me permets de dire ça, parce que c'est un peu intime, là, mais j'ai pris un dernier bain de piscine avant de la fermer et je remerciais la vie
oui.
Tout en nageant avec le vent dans les arbres et je remerciais de cultiver la gratitude, la reconnaissance pour ce fil si fragile.
Oui.
Fait que c'est ça que ça m'a donné, l'itinérance. Ça m'a vraiment apporté... de la reconnaissance.
De la gratitude.
Et de la gratitude.
Eh bien, moi, j'en ai pour vous, Agnès.
Merci.
Merci infiniment d'être venue. Du courage et puis de la détermination.
Merci.
Et de l'inspiration pour toutes les femmes.
Merci.
Restez avec nous. On revient après la pause pour rencontrer Anne-Gaëlle Whiteman.
À Canalem, vous écoutez Terre de femmes. Après la chanson, restez avec nous, nous recevrons Anne-Gaëlle Whiteman.
Car nous vivons les formes des cigales.
Nous recevons maintenant Anne-Gaëlle Whiteman. Bonjour, Madame Whiteman.
Bonjour.
Donc, vous êtes coordonnatrice à la Rue des Femmes, qui est un organisme qui vient en aide ou qui offre des services aux femmes dans la rue, itinérantes.
Aux femmes en grande difficulté, mais aux femmes, oui, surtout aux femmes en état d'itinérance.
Et qu'est-ce que le centre offre?
On offre de l'hébergement, on a une maison qui offre de l'hébergement d'urgence et on a une deuxième maison qui offre aussi de l'hébergement d'urgence et de l'hébergement à court, moyen, long terme dans des chambres individuelles avec une salle de bain individuelle aussi. Mm-hmm. Et on a une troisième maison qui est en fait la troisième étape des soins de guérison qu'on peut offrir au niveau de l'hébergement, qui sont des appartements supervisés.
D'accord. Et quel est le profil de ces femmes? Est-ce que ces femmes sont des consommatrices? La drogue, l'alcool?
Le profil des femmes, on a de tout. Hein. On a des jeunes. C'est sûr qu'on ne prend pas de femmes plus jeunes que 18 ans, hein, c'est évidemment, jusqu'à des femmes très, très âgées. Oui, on a des consommatrices, oui, on a des femmes qui ont des troubles de santé mentale sévères. Par contre, le point commun entre toutes ces femmes, c'est le choc post-traumatique du développement. Donc, ça, c'est le point qui est commun à toutes ces femmes.
Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage?
Le choc post-traumatique du développement, ou complexe, qu'on peut appeler, c'est en fait... tous les traumas qui peuvent arriver à l'enfance et qui sont répétitifs. Ce qui fait que l'identité, la personnalité et les traumas font partie du développement de l'enfant. Donc, ils font dévier autant ses comportements, d'accord, que ses perceptions, que ses relations aux autres.
D'accord.
Et c'est vraiment... C'est, même si dans l'expression, c'est un peu les mêmes choses qu'un choc post-traumatique dit normal, enfin oui, plus classique, ça n'empêche que la guérison est beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile.
J'imagine qu'on parle d'inceste, on parle de...
Inceste, violence verbale, agression de toute forme, abus, négligence, tout ce qui atteint en fait la dignité de, oui, de la personne.
Mm-hmm. Et après, vous croyez que ces femmes-là commencent à consommer, se retrouvent dans la rue, ou bien l'inverse? Elles se retrouvent dans la rue et elles consomment?
Mais en fait, quand un enfant, pour survivre à l'abus, un enfant, il va se déconnecter de lui-même, hein, pour être, oui, capable de survivre à l'horreur. Pour nous, cette déconnexion, une fois qu'elle est pratiquée et repratiquée, malheureusement parce que les abus sont répétitifs,
oui,
et réguliers, pour nous, l'enfant devient déjà errant à l'intérieur de lui-même.
Ah, oui.
Et s'il n'a pas les soins adéquats quant au choc post-traumatique complexe, à ce moment-là, si l'errance intérieure perdure, c'est sûr que le bout de la ligne, comme le coma, oui, physique, c'est un peu l'itinérance. La consommation, c'est une façon, c'est une automédication, je dirais, parce que ça gèle la souffrance,
oui, voilà,
intérieure. Donc, il y en a qui ne consomment pas, mais il y en a qui vont développer des troubles de santé mentale extrêmement sévères aussi, puis il y en a qui, bon, ont des troubles de santé mentale, consomment,
oui,
mais oui.
Et on parle... La moyenne d'âge, ça ressemble à quoi? Vous parliez tantôt, on ne les prend pas avant 18 ans. Il y a,
oui,
il y a des jeunes filles qui ont moins, oui, de 18 ans qui sont dans la rue.
Oui.
Mais quelle est la moyenne d'âge? La concentration, c'est quoi? Dans la trentaine?
Ben, moi, je vous dirais, ça dépend. Quand on va dans les ressources jeunes, c'est en bas de 18 ans. Il y a des ressources, c'est pour les 18-30 ans. Ça dépend vraiment de chaque organisme, finalement, et de la clientèle qu'ils desservent. La nôtre, je dirais que c'est beaucoup entre 30 et... Ça varie, mais 30, beaucoup 45, 50 ans, je dirais la moyenne, mais on en a de plus en plus des plus jeunes. À la Maison Jacqueline, on en a de plus en plus des plus jeunes. Je dirais que c'est entre 20 et 50 ans.
Et est-ce qu'on a raison de croire que c'est souvent des ethnies, donc on a entendu parler beaucoup des femmes amérindiennes, ou est-ce que c'est vrai?
On a de tout.
Ouais.
On a vraiment, vraiment, vraiment de tout. On a beaucoup des Premières Nations et beaucoup d'Inuits aussi. Et elles ont des fonctionnements quand même qui sont différents, autant dans leurs habitudes que dans leur, leur façon de naviguer dans le système. Mais c'est sûr qu'on en a de plus en plus.
Est-ce qu'on a raison aussi de croire qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont dans la rue?
Il y a plus d'hommes que de femmes, effectivement. Mais il y a de plus en plus de femmes aussi.
Et comment vous expliquez ça?
Je pense que les femmes se cachent beaucoup. Hein. On parle beaucoup de l'itinérance cachée des femmes. Donc, il y en a beaucoup qui vont aller, quand elles ont encore un réseau social, elles vont aller un petit peu chez leurs enfants, un petit peu chez des amis, un petit peu chez un copain, un petit peu, donc elles sont un petit peu en hébergement. Donc, elles font un espèce de tour comme ça tout le temps, ce qui fait qu'elles sont moins visibles. Les femmes aussi vont aller beaucoup avec chez des hommes juste pour pouvoir avoir un toit.
Ah oui, d'accord.
Oui, elles y vivent toutes sortes d'abus aussi.
Ah oui. Elles restent là puis elles supportent ça parce que c'est la seule solution.
Puis souvent, elles payent aussi un loyer.
Ah oui, en plus.
En plus, oui, c'est une forme d'esclavage sexuel.
Ah oui.
Mais pour assurer sa survie, on ferait n'importe quoi. Moi, la première, je ferais la même chose, je veux dire.
Oui, effectivement. Oui. Quand
elles sont en état de survie. Hein? Oui. On n'est plus dans un état de vie.
Quels sont leurs principaux défis? On parlait tantôt de viol.
Dans la rue?
Oui, dans la rue.
Les agressions.
Les
agressions sexuelles, d'être battues, volées. Elles se font battre pour qu'on leur vole leurs bottes ou leurs souliers ou leurs manteaux. Elles se font constamment agresser pour qu'on leur vole leurs médicaments. Elles se font violer. Il n'y a pas de limite. Je connais des femmes qui ont essayé de se défendre et on a lâché les pitbulls sur les femmes. Mais il n'y a pas de limite à l'horreur dans la rue. C'est extrêmement...
Est-ce que vous croyez qu'elles sont plus vulnérables que les hommes, justement à cause de leur sexualité?
Bien sûr qu'elles sont plus vulnérables.
Oui.
Bien sûr, de par la force physique aussi, même si on a des femmes qui sont extrêmement bâties et fortes, mais veut pas, face à un ou plusieurs hommes.
Est-ce que vous en avez vu qui s'en sont sortis?
S'en sortir, c'est un grand mot qui ne veut rien dire. Si je peux me permettre. S'en sortir, c'est tout dépend de la capacité de la femme, où est-ce qu'elle en est rendue aussi dans son processus de guérison intérieure face au choc post-traumatique complexe. Donc, quelqu'un qui ne peut jamais dormir dans un lit, qui dort par terre avec la lumière allumée, des chaussures toujours prêtes à fuir, la porte ouverte pour pouvoir entendre les intervenantes, et que ça prend 5-6 ans pour qu'elle puisse dormir dans un lit avec la porte fermée et puis plus de lumière, pour moi... Et pour nous, elle commence à s'en sortir.
Ouais,
est-ce que certaines de nos femmes, on va en faire des femmes qui vont retourner sur le marché du travail, qui vont être capables d'habiter seules ou autres, comme quelqu'un de totalement fonctionnel? Oui, on en a qui n'arriveront jamais à faire ça. Mais pour nous, le fait qu'elles arrivent à toucher un sentiment de paix intérieure, de pouvoir dormir sans peur, de pouvoir... avoir des relations de confiance avec certaines personnes autour d'elle, pour nous, c'est s'en sortir.
Oui,
les objectifs après de la sortie sont aux couleurs de chaque femme avec qui on travaille.
Mais merci beaucoup. Vous restez avec nous.
Merci.
On revient après la pause musicale.
Parfait.
Friends,
C'était Roxane Potvin des March. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Whiteman. Nous sommes dans une résidence à la rue des Femmes. Il y a des intervenantes, évidemment, qui les aident, qui les écoutent, qui apportent support et confort. Et je me demandais de quelle manière ces femmes qui sont habituées d'être dans la rue, qui sont vraiment des... on peut appeler ça des survivantes, réagissent avec les intervenantes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressivité, de colère?
Nous, à la Rue des Femmes, on a une approche totalement innovante qui est aussi une approche exemplaire, en fait, et qui est soutenue par tous les développements en neurosciences qui se font maintenant. Et cette approche s'appelle la santé relationnelle. Pour nous, l'itinérance n'est pas un phénomène socio-économique, même si il en fait partie, c'est une résultante, pour la plupart, en tout cas. Et c'est plus une problématique de santé. Et donc, à la suite d'un choc post-traumatique du développement, la personne perd sa capacité d'être en lien avec elle-même, d'être en lien avec les autres et son environnement, et d'être en lien avec sa sécurité intérieure. Non, ils sont très en lien avec leur souffrance, mais avec la capacité d'aller toucher sa sécurité intérieure. Donc, nos interventions, la première des choses, c'est de permettre à toute femme qui vient nous voir de se sentir d'abord en sécurité à l'intérieur de nos locaux. Et aussi, on va répondre à tous leurs besoins de base. Et au fur et à mesure du temps, des liens qui se créent avec elle, c'est de ramener la capacité d'être en relation avec son sentiment de sécurité intérieure, avec elle-même, avec les autres et avec l'environnement par la suite. Donc nous, on offre vraiment des soins de guérison et on essaye, notre but, c'est de faire changer un petit peu le paradigme de l'itinérance, que c'est une question de santé
Quand on dit santé, c'est santé mentale, santé globale?
Santé relationnelle.
Relationnelle, d'accord.
Oui, la santé relationnelle qui, en fait, fait le lien avec la santé physique et la santé mentale, hein, parce qu'on dit un corps sain dans un esprit sain, mais la santé relationnelle, c'est ce qui relie les deux. Et ce qui relie les deux, bon, on ne rentrera pas là en si peu de temps, mais c'est quand même tout le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, et le nerf vague, et c'est ça qui relie tout. Et donc, la santé relationnelle passe par ça.
Donc, est-ce qu'elles ont de l'agressivité ou pas envers les...
C'est sûr que quand on est en choc post-trauma face à un danger, parce que ces femmes sont toujours en situation de danger, elles sont toujours en hypervigilance, elles ne dorment pas bien, elles sont toujours obligées d'être sur le qui-vive. Il y a trois façons de réagir face à un danger. On fige, on contre-attaque ou on fuit. Donc, les femmes passent constamment d'un comportement à un autre dans ces trois façons de faire. Alors oui, il y a de l'agressivité. L'agressivité, la violence, pour nous, c'est une expression de la souffrance. En général, quand on arrive à toucher ce qu'elles ressentent vraiment en dessous, c'est la colère s'apaise parce que c'est une expression de la souffrance.
On a l'impression qu'elle m'en dit moins que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est, ou c'est juste une impression qu'on a?
Elle m'en dit, il faut comprendre que les femmes n'aiment pas être vues comme des femmes itinérantes. Elles n'aiment pas être reconnues comme telles. Beaucoup se cachent. Il y a plein de femmes que vous croisez tous les jours que vous ne sauriez absolument pas qu'elles sont itinérantes. Donc oui, elles ne vont pas aller s'exposer à mendier. Certaines le font. D'autres vont chanter. D'autres vont... Le travail du sexe est quand même quelque chose de très fréquent, surtout pour celles qui sont toxicomanes, malheureusement. Mais... voilà, elles n'aiment pas être affichées comme telles.
Est-ce que notre regard est plus cruel sur une femme dans la rue que sur un homme?
Bien sûr.
Comment
on juge, on juge les femmes, on juge les mères qui n'ont pas, soi-disant, été capables qui ont préféré, on va dire, on pense qu'elles ont préféré la consommation ou la vie dans la rue à leurs enfants, mais ce sont toujours des souffrances de plus qu'elles s'infligent parce qu'elles ne savent pas comment guérir de leurs souffrances intérieures qui les poursuivent depuis l'enfance. Donc oui, ne serait-ce qu'à notre niveau, quand on va dans un party de famille, il y a un homme qui se saoule, bon, ça, c'est relativement accepté, mais une femme, on va tout de suite la juger qu'une femme ne peut pas faire ça.
Mais c'est quand même étrange. C'est à cause justement de la responsabilité qu'on lui accorde.
Les femmes ont un rôle de mère. L'image de la femme pure toujours. Donc, elles sont jugées beaucoup plus durement.
Est-ce qu'on doit ou pas leur donner de l'argent? C'est une grande question.
C'est une grande question.
On ne sait jamais, on se fait dire oui, vous pouvez donner ou non. C'est cette question-là.
Moi, je réponds à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? L'important, avant de donner des sous ou pas, c'est de regarder la personne, de voir l'âme de la personne. Moi, j'en donne très peu, quand les hommes dans la voiture, on est dans le centre-ville. Oui. Par contre, quand je leur dis non, c'est toujours avec un grand sourire. Et puis, ils sont toujours très contents que la façon dont je leur réponds. Pour moi, ces gens-là cherchent à exister dans notre regard.
Oui.
Et donc, peu importe la façon, si vous donnez même des sous, oui, mais parlez-leur. Les gens sont toujours... Ils cherchent le contact, ils cherchent à être reconnus et vus et à exister, même si c'est un 10 secondes. Donc, faites ce qui vous semble être le plus... le geste le plus qui va venir de votre cœur.
Donc, il n'y a pas de réponse.
Il n'y a pas de réponse.
Allons rester encore dans le... En fait, on y va avec notre cœur, simplement.
Oui, exactement. Mais simplement de les regarder, de donner 2 $ et puis de regarder par terre en prétendant qu'on ne les a pas vus. Je pense que c'est pire que de simplement de dire non. Mais avec un vrai regard et avec un vrai sourire... Je pense que ça fait tout ça et dans la façon de le faire.
C'est vrai que ça nous fait mal de les voir et on ne sait pas comment réagir. Mm-hmm. Hein.
mal ou peur, mais ce sont des personnes extrêmement souffrantes. Il faut jamais oublier ça, que ce qu'on a, ils sont devant nous, mais on a une grande souffrance.
Et en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, arrêter de les ignorer, c'est déjà une bonne... Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire?
Mais c'est sûr que ça n'empêche que c'est quand même... On ne peut pas aller dans la rue et décider de se définir intervenant, leur parler, bien sûr, leur parler, les écouter sans trop rentrer dans leur intimité, bien sûr. On ne va pas questionner des gens comme des bêtes de cirque. Mais sinon, ça peut être aussi de donner des sous à des organismes qui en prennent soin, parce que c'est nourrir, vêtir, donner des soins, les héberger, tout ça gratuitement, c'est sûr que ça...
Est-ce qu'il y a des solutions pour diminuer l'itinérance d'après
Bien
vous?
Sûr. Bien sûr, ça prend des solutions adaptées. Hein. Faut arrêter de chercher à les mettre dans des cases préétablies, dans des programmes préétablis qui sont valables pour tout. Pour tout le monde, ce sont des gens qui sont passés déjà par tous les programmes inimaginables qui sont des soins des services sociaux et de la santé. On s'entend que ce sont des enfants qui sont passés par la DPJ, qui sont passés par la détention, par les hôpitaux, par des programmes de réinsertion, par,
tout.
Mais ils passent leur temps à passer au travers des mailles du filet, parce qu'il faut les écouter, il faut partir d'elles, et il faut que ce soit adapté. Est-ce qu'il y en a qui vont vivre toujours avec quelqu'un pour qu'elles se sentent plus en sécurité dans des hébergements? Oui. Donc, il faut avoir des petits foyers de groupe. Nous, on croit beaucoup à ça, des petits foyers de groupe avec 10, 12 femmes ayant chacun leur chambre, avec une intervenante toujours sur place qui parce qu'elles dorment pas toute la nuit, elles se réveillent, elles viennent vérifier qu'il y a quelqu'un encore de réveillé, qui veille sur eux, sur l'environnement. Elles ont besoin de parler. Donc, d'avoir toujours quelqu'un à proximité, pas simplement de les mettre en logement avec un suivi une fois par semaine. C'est pas assez. Elles font face à leurs démons. Elles sont toujours pas plus guéries à l'intérieur. Elles s'endurent pas. On a des femmes qui ont des appartements dans les programmes d'appartements pour les personnes itinérantes et elles n'y dorment jamais. Jamais, jamais. Ou elles y ramènent d'autres personnes de la rue ou des conjoints violents.
Parce qu'elles ont peur.
Parce que d'être seule, enfermée, on fait face à son isolement, on fait face à ses souffrances, à ses démons, à tout ce qu'on veut fuir.
Oui. Et est-ce qu'on peut parler de prévention pour les générations à venir? Vous disiez tantôt, et ça m'a traumatisée, qu'il y avait, les femmes étaient de plus en plus jeunes.
De plus en plus jeunes et avec des cas de plus en plus lourds.
Ah oui.
C'est vraiment ça qui est extrêmement marquant ces dernières années. Oui. À partir du moment où on va reconnaître que la santé relationnelle est le troisième lien de la santé d'une personne, à ce moment-là, on va pouvoir commencer avec les enfants à faire des soins différents par rapport aux souffrances que ces enfants-là ont vécues dès le plus jeune âge, au lieu de les reprendre avec 40 ans de vie, où c'est quand même beaucoup plus cristallisé, Elles se font revivre ces souffrances-là aussi, malheureusement, après, dans des conditions extrêmes.
Ben, merci infiniment,
Madame Watt. Ça me fait un grand plaisir.
Merci. Écoutez, c'est tout le temps que nous avons et on pourra en parler pendant une semaine de ce sujet-là. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Un immense merci à mes invités en studio, Agnès Reynaud, thérapeute en relations d'aide, et Anne-Gaëlle Whiteman, coordonnatrice à la Rue des Femmes. Merci à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout spécial pour vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Christiane Singer. L'amour est visionnaire. Il voit la divine perfection de l'être aimé au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. Ici Marthe Saint-Laurent. Et vous dire à la semaine prochaine.